seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
L'open mic, c'est nous autres, ça. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 11h30 avec nul autre que Mme Audrey Pinchot, qui sera en prestation demain dans le secteur de Saint-Isidore, plus précisément à l'aréna de Saint-Isidore. Elle va chanter l'hymne national, qui va faire en sorte que par la suite, on va pouvoir jouer un match de hockey assez compétitif.
Est-ce que tu sais que j'avais complètement oublié pour me le rappeler 10 minutes avant qu'on entre en onde et te dire comment j'ai le cœur qui serre parce que je déteste ça?
C'est les boys de la Beauce qui sont descendus, tu sais, ceux qui avaient kidnappé leur propre mère là,
oui.
Et qui l'avaient amené de force au centre de glace Intact Assurance pour jouer contre nous autres. Ben, ils ont décidé de nous donner une revanche parce qu'il faut dire qu'après 11 ou 12 périodes de fusillade, ils ont réussi à la mettre dedans, ce qui fait en sorte que ça leur a donné la victoire. Puis ils ont dit, ben, si vous voulez une revanche, on vous la donne, puis ce sera chez nous. Donc, on va samedi, donc demain, à Saint-Isidore, à l'aréna de Saint-Isidore. Eux autres, ils ont fait une vente de billets pour pouvoir continuer à bien faire fonctionner leur aréna.
Oui, c'est au profit de l'aréna.
Exactement. Puis il y a 300 billets de vendus. Toi, t'as été choisi pour chanter l'hymne national et je suis très content parce qu'on me dit que Max s'est offert à peu près 20 fois.
Ben Max va m'accompagner. C'est ça qui est cocasse. Je sais pas ce que ça va donner.
La réponse est non. Il ne t'accompagnera pas.
Oui, je te le dis.
Mais il va être à côté de nous autres. Là. On s'est arrangé pour lui donner un poste sur notre alignement qui fera en sorte qu'il fera pas trop d'erreurs. Donc, ils nous donneront pas... Il nous causera pas trop de troubles. Fait que ça va être une avec la belle gang des... Des beaux sons. Demain, les Iceman, oui. Puis les enfants vont être là. Il va y avoir un genre de mini-match. Là. Les enfants à Denis vont être là. Mes enfants à moi vont être là.
Ça va être
les enfants des Iceman vont être là aussi. Ça va être une belle soirée organisée. J'espère juste qu'ils vont être encore plus sous que la dernière fois avant de débuter le match.
Le pire, c'est qu'ils ont quand même gagné. Fait que visiblement, c'est une formule Boss Run qui marche.
Attends un peu, là. Ils sont arrivés. Nous autres, on n'est pas surentraînés. Bon, je sais que ça paraît pas quand tu regardes mon corps d'Adonis comme ça, là. Mais on n'est pas surentraînés. On joue pas au hockey ensemble, toute la gang, tout le temps.
Là, t'es malhonnête. Là, t'es mauvais
perdant. Eux autres, ils jouent ensemble à toutes les semaines.
Là, t'es mauvais perdant.
Ils sont arrivés 40.
Yannick Marceau.
On était 10.
Oh là là, c'est pas drôle, hein? Ça va être
demain,
bon comme match.
Demain, je sais pas trop. Je pense qu'on va...
C'est à quelle heure exactement le match?
20h.
20h.
Mais il y a un genre de 5 à 8.
Ouais,
là.
C'est ça, OK. Fait qu'on va être là un peu d'avance.
La bière est pas chère à Saint-Isidore.
Non, la bière est pas chère, puis le billet pour rentrer non plus. Là. C'est quoi, 5$?
Autour de 5$.
C'est ridicule. Là.
Nicolas Leclerc a dit, hey, je vais y aller. Ben, ça va te coûter 5$. Hey, je suis le propriétaire de la station. Ça va te coûter 5$, mais hey!
C'est pour l'aréna de Saint-Isidore.
Exact.
One minute.
C'est pour nos beaux sons.
Ah non, ça va vraiment être trippant comme soirée. Puis
vraiment.
Ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, quand on fait le match boulevard, c'est organisé par la station. Tu sais, nous autres, on travaille, on va là-bas, mais tu sais, on fait ça par le biais de la job.
Ouais, le match boulevard chez Intact Assurance, dans l'anneau de l'As, ça, c'est organisé par boulevard.
Ouais, là, c'est pas nous autres.
Exact.
On fait juste y aller pour triper, voir le match, prendre la revanche, puis je trouve ça cool que tout le monde embarque. En passant, pour ceux qui peuvent vraiment pas y aller, là, je vais m'occuper de faire une couple de réseaux sociaux sur place.
Reste-tu de la place? Parce que 300 billets de vendus, il ne doit plus rester tant de place que ça. À moins qu'on loue des places là, sur le banc des joueurs.
Ben, tu sais, toi, tu parles de 300, mais tantôt, quand j'étais dans le corridor, de ce que j'ai compris en réservation et tout, on va être autour de 500. Fait que vous pouvez payer sur place, ça, je le sais. Hey, je te dis, je t'angoisse, c'est raide. Je pense que je me souviens même plus des paroles de l'hymne. C'est quoi les paroles de l'hymne?
Au Canada.
Au Canada.
Terre de nos aïeux.
Ton front est saint de fleurons glorieux.
Ouais.
Car ton bras s'est porté l'épée. Il s'est porté la croix. Foi.
Ou la gloire.
Il s'est porté la gloire.
Foi. La foi.
La foi. Croix.
Attends un peu, là.
Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits.
Ouais.
Car ton bras, c'est... Non, là, je la répète. Et puis là, je suis pas prête.
Parole de l'hymne.
En français, parce que là, moi, je te fais pas ça en anglais, là, au Canada.
Non, tu fais ça en français, on t'embauche.
Ben oui, c'est ça, là. Attends une minute, là. Fait que juste in French, là.
Fait que là, je lis ici. Quand ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix.
La croix.
Ton histoire est une épopée
des plus brillants exploits.
God keep our land glorious and free.
Non. Et ta valeur
de foi trempée.
Au Canada,
we stand on guard for thee.
C'est ça,
au Canada, we stand on guard for thee.
Moi, ça va être ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits.
Je pense que ce serait plus facile de le faire en anglais.
Non. Hey, est-ce que tu m'as déjà entendu parler en anglais? T'as-tu vu ce que ça a donné hier?
Hier, c'était une catastrophe.
Mais c'est ça, c'était épouvantable. Il n'y aura pas de version anglophone demain, on est 100% Québec.
Les gens n'étaient même pas capables de deviner ce que tu disais.
Ça a été difficile. Ouais. On ne jouera plus à ça, je vous lirai plus des paroles de tune en anglais.
Puis Valérie a quand même le commentaire un peu plus cinglant que le mien par rapport à la prestation que tu viens de faire. Elle m'a dit « Yann, est-ce qu'on vient d'étrangler le chat? »
Ah!
C'est juste Audrey qui chantait.
Ah, pas dit ça pour vrai.
Bonne chance pour demain.
Arrête, Yann est colique. Je vais laisser Max faire. Je vais présenter Max. Il a sorti une toune du Canadien un matin. Il m'a dit « Chante ta toune ».
Ouais. Y a-tu... Y mettent-tu une genre de protection, un genre de filtre électronique sur la voix à Max?
À Max? Il est auto-tuné comme ça n'a pas de bon sens.
Puis il réussit à être mauvais de même.
C'est épouvantable, hein? Peux-tu la faire entendre? Va sur Facebook. Hey, je vous dis, là, allez sur l'Instagram et le Facebook de Boulevard parce qu'il faut savoir qu'il y a un clip qui vient avec ça. Max s'est pas contenté d'enregistrer une toune. Il s'est dit, hey, il m'a me filmé puis m'a joué ça jusqu'au bout. Et là, au lieu d'être Maxime Gun Kelly, c'est Maxon Boone Kelly. Parce que c'est une reprise d'une chanson de Benson Boone.
OK. Mais Max, c'est son plus grand fan.
Il aime ça. Il aime tellement ça, oui. Puis
je suis curieux, curieux de voir... Comment ça se passe quand il est seul chez eux?
Ça doit être épouvantable.
Il y a combien de miroirs dans son appart?
Pas assez, visiblement. Parce
quand
que...
il dort le soir, là, il se regarde dans le miroir au plafond?
Assurément.
En disant, c'est qui ce beau garçon-là?
Derrière les portes, partout.
Le Canadien est en série. Se faisait longtemps maudit. On peut enfin recommencer à rêver à Coupe Stanley. Êtes-vous prêts? Au tournoi de golf d'été, on parlait du mix. Il y a eu des bouts de saison qui étaient un peu tristes.
Tout est parfait.
Tout est génial.
Tout est parfait.
Oh non, tu vas manquer le meilleur bout, là.
Mais quand il se fait flusher, là, est-ce qu'elle explique à Max pourquoi il flush?
Je pense pas.
C'est parce qu'il chante.
Ben oui, puis il aime ça, mais en même temps.
Il s'est même
ça,
filmé
enfin.
Dans sa douche.
Oui, 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 il s'est filmé. Quand je vous dis qu'il faut aller voir le clip, là, il s'est filmé sa terrasse, dans sa douche, dans sa cuisine, il s'est filmé partout, là. Il s'est pris au sérieux dans cette histoire-là.
Puis Matt Marcotte a participé?
Matt Marcotte. Nathan aussi est dans le clip, si je me trompe pas. Il y croit. Fait que c'est ce soir, hein?
Est-ce qu'il y a des gens qui l'insultent sur la page?
J'espère pas.
C'est Denis Gravel. Non, mais... Il dit la bonne nouvelle, c'est que cette toune-là ne jouera pas longtemps.
T'as-tu vu? T'as-tu vu la story que Galopage a faite dans les dernières heures?
Je vais liker le commentaire de Denis.
Franchement. Dans les dernières heures, Galopage a mis sur ses réseaux sociaux une story où il déplace sa haine pour les humoristes qui font des chansons sur le hockey. Il a écrit, je cite, « Calisse que j'haïs ça les tounes d'humoristes sur le hockey qui sortent à chaque année. Paroles poche, musique poche. » Max nous a envoyé ça puis il a dit une chance, je suis pas humoriste.
Paroles poche, musique poche. Un peu comme ce qu'on peut entendre à tout le monde en parle quand
Oh, Yannick, là, t'es une mauvaise foi.
Non.
Franchement.
Non.
C'est pas écouté autant pour rien.
T'as le droit de dire ce que je pense.
Mais t'as le droit de dire ce que tu penses.
Carl qui dit avec une toune comme ça, je comprends pourquoi Max doit rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours.
Oh, il s'amuse, petit loup. Il est créatif. Il est dans cette période-là de sa vie où il teste ses propres limites et les nôtres.
Oui, ça, c'est bien dit. Hey, je voulais te jaser de quelque chose.
Ben, parle-moi, mon ami.
Parfois, c'est rare que je fais ça, mais des fois, je me compare.
Hein?
Oui. Puis je lisais un article super intéressant que je t'ai envoyé, puis j'aimerais ça qu'on réfléchisse à la gang, parce que j'ai trouvé ça dans la presse. Le gars... Son nom, c'est Cyric Plong. C'est un gars qui, visiblement, a des racines asiatiques. Là.
Mm-hmm.
Et depuis qu'il est jeune, c'est weird, hein? Depuis qu'il est jeune, ce gars-là rêvait de donner un rein à un inconnu.
C'est particulier. Hein?
Je ne sais pas tu sais, comment la chose s'est rentrée dans son cerveau étant jeune enfant, mais ça vient quand même... Tu sais, des fois, je me pose des questions. J'en fais-tu assez?
Je suis un bon humain.
J'en fais-tu assez pour les autres?
Mm.
Puis quand j'ai vu ça, tu sais, quand même, il dit, c'est rare d'avoir le luxe de savoir à 100% que c'est la bonne chose à faire, là, parce qu'effectivement, quand tu as à prendre cette décision-là, mon chum Joe, qui doit nous écouter actuellement, que j'ai déjà reçu en onde, que tu as déjà rencontré aussi, Joe, il est en attente d'une greffe de rein. Puis j'avais dit à Joe, tu sais quoi? Je pourrais aller voir, moi, si on pourrait être compatible, toi puis moi. Puis il avait refusé à l'époque.
Hmm.
Puis il est encore dans l'attente d'une greffe de rein, puis ça doit faire.
Pourquoi il avait refusé
ça? Écoute, ça fait deux ans. Ah, ben, il a refusé ça pour les membres de sa famille, pour ses chums aussi. Tu sais, c'est complexe en sacrifice là, quand tu es en attente d'une greffe de rein, parce que maintenant, ils peuvent faire leur nettoyage, là, à tous les, le nettoyage de leur sang à tous les jours à la maison, pour certains, ceux qui sont capables de le faire. Mais il n'en demeure pas moins que de mémoire, s'ils m'écoutent, j'aimerais ça qu'ils m'écrivent. De mémoire, c'est 12 heures brancher sa machine. Là,
tabarnouche,
pour filtrer ton sang. Là. C'est tough en sacrément. Je vais juste y écouter. Je vais juste y écrire.
Lâcherai un petit message.
Combien de temps?
Parce que le don d'organes, moi, je me souviens que mes parents m'ont sensibilisé à ça très jeune. Tu sais, signer le dos de ta carte d'assurance maladie pour faire un don éventuellement si tu décèdes.
Si tu es d'accord pour le faire, tu le fais. Si tu n'es pas d'accord pour le faire puis tu as tes propres raisons, moi, je ne jugerai jamais ça.
Je juge pas non plus. Moi, j'ai toujours eu le thinking très personnellement de me dire, peu importe en quoi tu crois dans la vie.
C'est
là,
ton corps.
Oui, c'est ton corps totalement. Mais tu sais, moi, je vais finir incinéré anyway. Fait que si mon cœur, si mes reins, mes poumons, tout ce que tu voudras, mes yeux peuvent servir à quelqu'un, ben tant mieux. Si je peux continuer de vivre de cette façon-là, entre guillemets, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit facile, par exemple, de retrouver la personne qui t'a donné.
Ah, mais il y en a qui veulent rester dans l'anonymat, puis il faut respecter ça. Mais effectivement, il pourrait y avoir une permission qui est octroyée à la famille pour savoir qui est-ce exactement qui a fait le don.
C'est confidentiel.
Exact. Des fois, c'est évident, là, parce que c'est médiatisé. On parle d'une mort tragique sur une autoroute, exemple. Deux enfants, un père puis une mère, c'est une famille de quatre. Puis tout d'un coup, il y a des greffes qui sont données quelques heures plus tard. Tu sais, des fois, c'est évident puis c'est assez facile. Mais d'autres fois, tu sais pas de qui ça vient. Pantoute, ça peut être un donneur en Ontario.
Oui. Je pense que si j'avais la chance de vivre puis j'avais le cœur de quelqu'un d'autre, j'aimerais ça pouvoir le remercier, tu sais. J'aimerais ça pouvoir dire que je suis reconnaissante.
Ça se peut qu'ils t'entendent pas, là, mais oui, de remercier la personne dans ta tête, de remercier la famille.
Tu vivrais-tu bien, Yann, d'avoir, mettons, le cœur d'un tueur en série dans ton corps?
Hey, c'est une bonne question. C'est drôle, hein, parce
c'est
que j'ai
c'est une greffe,
vu
mais c'est le cœur d'un innocent, là.
Ouais, tu sais, moi, je suis pas un gros cinéphile, là, puis j'ai pas vraiment de mémoire sur toutes les séries et les films que j'écoute, là, comme Denis et Véro. Quand je les écoute, là, je me dis ça a pas de bon sens.
Je te comprends.
Qui gardent ça dans leur casier, mais après ça, oups, c'est un lundi, je vais te sortir un film que j'ai écouté en 1987.
Avec tel acteur, ouais, je sais. T'imagines comment je me sens complexe, journée longue.
Mais y a une femme qui avait reçu le cœur d'une autre femme. C'est une série, là. Je pense que c'est une série européenne. Puis la femme a reçu le cœur d'une autre femme et l'homme, qui était le conjoint de cette femme-là, a rencontré par hasard la fille qui avait obtenu ce cœur-là.
Mais oui, on a.
Puis c'est comme si le cœur était tombé en amour avec le cœur.
Oh,
c'est une série qui a
Dieu
passé, là, peut-être là, deux ans ou trois ans. Là.
88-971, ça vous dit quelque chose? C'est-tu Enquête à cœur ouvert?
Je sais pas. C'est sur Netflix, en tout cas. C'est là-dessus que j'ai écouté ça.
Bien, si vous avez le titre, mon Dieu, au moins, le cœur est tombé en amour avec le cœur. C'est très cliché.
Ouais, puis à un moment donné, la fille, elle découvre que le gars, c'est le mari de la fille qui a fait un don d'organes. Quelque chose du genre. Puis il y avait une histoire de meurtre aussi au travers de ça, là. C'était un peu capoté.
Ouais, non, mais c'est complètement débile. Je sais pas comment je réagirais. Fait que là, parle-moi de cet homme-là, là. Cet homme-là a décidé...
À cœur battant.
À cœur battant?
Je pense que c'est ça.
Ah, oh, ouais. Je pensais que c'était québécois, cette affaire-là.
Quelqu'un qui dit Palpito, mais c'est ça. C'était pas une série d'ici. À cœur battant, m'a dit tout de suite si c'est ça.
Parce que cœur battant, c'était avec Élodie Bégin, c'est ça, c'est québécois, là. C'est sur ICI Télé. En tout cas, 97-102, mais je veux que tu me racontes l'histoire du gars. Fait que lui a décidé, jeune, qu'il voulait donner un organe à un moment donné dans sa vie.
Ouais.
C'est pas un petit don, là.
Quand il avait 16 ans, sa mère lui a offert un livre de vulgarisation scientifique sur l'anatomie humaine. Comme toutes les mères ont fait, là. Moi aussi, j'ai eu ce genre de livre-là. Là. Je me rappelle pas c'était quoi exactement le titre, là, mais c'était les premières amours, les premières relations sexuelles, comment fonctionne l'appareil sexuel masculin et tout ça. Mon chum Joe, il vient de répondre. Il va me dire, c'est 12 heures, c'est ça. Je m'étais pas trompé.
Pour te brancher sa machine?
C'est 12 heures sa machine. Ça veut dire que tu arrives chez vous à 19 heures, là. Puis si tu prévois partir de la job à 7h30, mettons, fait que tu te débranches à 7h.
Ça s'appelle En un battement. Là, on fait du coq à l'âne dans ta barnouche, là, mais ton film, c'est En un battement que ça s'appelle.
En un battement?
Oui, c'est sorti en 2022, 2 saisons. C'est El Papito, dans la langue originale. C'est quelqu'un qui vient de nous l'envoyer par texto. Ce serait ça?
C'est très bon.
L'histoire, en tout cas, l'histoire semble obsédée par l'idée de venger sa femme de l'organisation de trafic d'organes qui l'a tué pour prélever son cœur. Simon noue une relation avec la patiente qui l'a reçue, Camilla.
C'est ça?
Oui. Ben écoute, je vais mettre ça dans ma liste. Ça a quasiment l'air... c'est un trailer un peu, là.
C'est vraiment bon. Donc, le jeune de 16 ans a reçu un livre de vulgarisation scientifique. Et, bon, il y avait... lui, il dit que c'était un beau livre qui était en 3D. Chacune des pages correspondait à une couche du corps humain. Puis, à un moment donné, c'est est venu le sujet de la transplantation. Puis, il s'est dit, tiens, pourquoi moi, je ferais pas ça pour un autre être humain? Puis, il a réussi à le faire.
Il y a tellement de façons de faire un don de soi, je pense, dans une vie. Tu sais, de ton temps, du bénévolat. Mais ça, c'est gros, là. Il peut y avoir des impacts sur ta santé, là.
Oui. En 2020, le jeune homme trouve un numéro de téléphone pour joindre le département de médecine interne de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis la première chose qu'il a dit à la personne qui a répondu, c'est « Est-ce que vous avez besoin d'un rein? » Puis là, ben après ça, les gens ont dit oui, nécessairement. Puis il y a eu une batterie de tests physiques et psychologiques qui est échelonnée sur 2 ans. Bon, il y a eu la pandémie qui a ralenti le processus, bien entendu. Donc, il a réussi à se qualifier comme donneur par la suite. Puis lui, il dit qu'il fallait voir l'air abasourdi des colocs devant la tablette du frigo où leur jus de pomme côtoyait le contenant d'échantillons d'urine nécessaire pour les tests. Ce dernier était tout de même caché dans un sac de papier brun. L'histoire est racontée au grand complet, c'est dans la presse. Je trouve ça formidable, puis je me pose toujours cette question-là. J'en fais-tu assez? Moi, ma carte d'assurance maladie est signée. Oui, si vous ne l'avez pas signée, puis vous aimeriez donner vos organes si jamais vous décédez un jour, ce qui va probablement tout nous arriver, mais il faut que ça soit le moins rapidement possible, bien entendu, ben, vos organes serviront peut-être à quelqu'un d'autre, un enfant qui sait.
Je sais que c'est un débat qui revient à peu près aux 2-3 ans, là, mais moi, je serais tellement pour le fait que tu les donnes... puis tu signes si tu veux pas y donner. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de gens qui oublient juste de signer, qui comprennent pas la valeur, tu sais, qui s'en font pas avec ça, puis automatiquement, dans ce temps-là, ben tu peux pas justement donner tes organes. Puis j'ai l'impression que ça pourrait tellement sauver du monde qu'on fasse l'inverse. Tu sais, après ma barre, là, tout le monde donne ses organes quand tu décèdes. Si tu veux pas les donner... signe ta carte.
Inverser le fardeau.
Oui.
Oui, ça pourrait être fait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai régulièrement parlé avec des politiciens de ce sujet-là.
Ça a l'air compliqué.
Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Certains pays, c'est ça. Le fardeau est inversé. Si tu ne veux pas donner tes organes, ben, tu as juste à signer.
Oui.
Savez-vous quoi? Moi, je ne vous jugerai jamais pour ça. Là.
Mais non.
Vous voulez le faire, vous le faites. Vous ne voulez pas le faire, vous le faites pas. Donc, Joe, que je te parlais, là, que je lui avais offert un de mes reins, il avait refusé pour toute sa famille, pour tous ses chums, puis il est encore sa liste. C'est 12 heures par jour, puis ce qu'il me dit présentement, il dit « je peux modifier ma machine et le faire sur à peu près 10 heures, mais je peux pas le faire souvent parce que c'est vraiment déconseillé. » Puis ce qui sort, après le nettoyage du sang, là, c'est comme de l'eau claire, puis j'imagine qu'il y a comme un peu de méchant là, qui sort dans cette eau-là. C'est hallucinant, là. Ça te passe au travers du corps toute la nuit.
Il sent-tu?
Ben oui, il sent.
Il sent quand le ménage du sang se fait pendant 12 heures.
Oui, il réussit à dormir quand même, là. Mais il sent. Là. Puis, tu sais, il s'était fait, là, il n'est plus en couple, là, Joe, là. Mais il s'était fait une chambre à part.
Pour pouvoir, pas déranger.
Ben, c'est ça, pour pouvoir faire ses affaires sans déranger personne.
Mon Dieu, t'accepterais-tu, toi? Une vie. De donner un organe?
Non, d'accepter ça de la part de tes proches.
Hé, hey, pelaise, c'est une énorme question, ce vendredi.
On le ferait tout pour nos enfants,
mais
je
pense. C'est ça qui est weird. Je le ferais pour un proche. Je sais pas si j'accepterais d'un proche. Parce que je vivrais jamais bien avec le fait qu'il y ait des conséquences peut-être sur cette personne-là, si ça vire mal, s'il y a, je sais pas moi, une infection, s'il y a un problème en vieillissant. J'aurais vraiment de la misère à vivre avec ça. Mais demain matin, par exemple, mon frère a besoin un de mes frères a besoin de peu importe l'organe que je suis capable de donner, que j'en double, là, je le donne.
Fait, ce que je comprends, c'est que toi, tu pourrais le faire.
On est-tu niaiseux, hein? Mais tu veux pas le recevoir.
Mais le recevoir, t'aurais une hésitation parce que tu te dis, si l'autre a une complication, je vais me sentir cheap jusqu'à la fin de mes jours.
Ben, c'est même pas parce que je veux me sentir cheap, c'est parce que je m'en voudrais que cette personne-là ait des complications à cause de moi. Je pourrais pas vivre avec ça, puis je serais en maudit contre la vie, tu comprends? Non, mais sérieusement, tu veux faire une bonne action puis ça se revire contre toi.
Ouais. Il y a d'autres petits gestes au quotidien que vous pouvez faire. Ben oui, là, mais l'histoire de ce gars-là qui est d'origine asiatique, qui est arrivé au Canada puis qui veut faire sa part, je trouve ça incroyable qu'il ait fait, tu sais, qu'il allait appeler à 16 ans. Hey, vous voulez voir un rein? Finalement, à 26 ans, il a réussi à réaliser un de ses rêves, c'est-à-dire donner à son prochain.
Ça, c'est trop un bon humain. Là. Honnêtement, c'est insultant, ça met la barre beaucoup trop
haut. Il va rester célibataire jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce que tu dis.
C'est donc bien fâchant, tu sais. On dit bon monde de même. Non, mais j'admire vraiment ces gestes-là. On a un texto au 88-971-1021. La conjointe de mon meilleur ami a donné un rein à la meilleure amie de sa fille. C'est vraiment un très, très beau geste, nous dit Carl. Effectivement, c'en est un sapré beau. Tu le ferais-tu, toi, pour un ami de ton gars?
Faudrait que j'aille une proximité. De mon vivant, là, tu sais, Joe, c'est quelqu'un que j'aime bien, puis lui, son frère, est décédé.
Oh.
Puis si je me trompe pas, son père est décédé d'à peu près la même problématique, ce qui fait en sorte que lui, s'il attend trop, ça se peut qu'il en décède aussi. Puis la liste est weird, parce que moi, je dis tout le temps, peux-tu consulter la liste, savoir t'es rendu où à peu près, quand est-ce qu'ils vont t'appeler? Puis la liste, elle fonctionne pas comme on peut penser.
Non, ben elle fonctionne par urgence aussi, là.
C'est ça.
Tu peux pas juste être le septième sur la liste, là.
C'est, mettons que ça fait 3 ans que t'es sur la liste, là, puis là, tout d'un coup, il y a Max qui arrive, puis il a abusé trop de la vie, puis il a besoin d'un rein, ben il va passer avant toi.
Oui, parce que lui, sa vie est en danger.
Parce que sa vie est en danger.
C'est fâchant pareil.
C'est ça, je me trompe pas, il se fait à peu près 2 ans qu'il est en attente d'une greffe de rein, puis il est encore là-dedans.
C'est capoté. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui nous. Puis ça, c'est vrai, tu disais, il y a d'autres façons de donner dans la vie. Là. Il y a Kevin qui nous dit moi, je donne des plaquettes aux 2 semaines. C'est un autre don qui est extraordinaire. Il y a des gens qui vont donner du sang. Il y a des mamans, des jeunes mamans qui vont donner du lait maternel. Des mamans qui produisent trop, puis qui vont donner à Emma Québec du lait maternel pour pouvoir aider d'autres poupons, d'autres familles. Il y a plein de façons de faire un don de soi sans se faire ouvrir nécessairement. Là, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune garçon-là. Là. À son âge, de prendre cette décision-là, c'est gros. Là.
Est-ce que... J'embarquerai pas là-dedans parce que j'avais comme un autre sujet à jaser avec toi, puis on n'aura pas le temps de passer au travail.
Arrête, là, tu teases tout le monde de même, puis
ouais.
Là...
Je suis un agace.
Voyons, c'est bien poche, là.
Je suis un agace.
Tu m'en parles-tu lundi?
Oui. On reçoit Mademoiselle V aujourd'hui.
C'est donc bien nul.
Ben oui.
Oui, on reçoit Mademoiselle V. Puis là, on ouvre les pompes, là, 88-971-1021 par texto. Le Twitch, BLVD, barre en dessous FM sur le twitch.tv, là, si vous voulez vous joindre à la communauté. C'est un sujet qui est assez sérieux en ce vendredi matin ensoleillé. On parle de violence conjugale.
Mm-hmm.
Ça fait partie, veux pas, tu sais, Mademoiselle V, elle est conseillère en sexologie, mais vous comprendrez qu'elle travaille avec des couples. Puis ben, la violence conjugale touche parfois la violence sexuelle aussi. Puis c'est un gros, gros, gros sujet ce matin, mais si vous avez envie de partager, c'est le 88-971-1021. En passant, dans ces sujets-là, on garde toujours ça anonyme, inquiétez-vous pas avec ça, là. Fait que c'est le sujet de ce matin.
Bon, on me traite de momoune, fait que je vais t'en parler de suite. T'as-tu suivi...
C'est ça le truc!
T'as-tu suivi dans les dernières heures sur les réseaux sociaux la saga Hélène Boudreau, Mademoiselle UQAM?
Ben oui. C'était pas en table.
Tu sais, à toujours vouloir attirer l'attention, parce qu'elle, c'est une maître dans l'art d'attirer l'attention.
Mais c'est ce qui a créé son succès, c'est la fille de
l'UQAM. C'est ce qui a créé son succès. Elle est devenue multimillionnaire, Hélène mm-hmm. Boudreau, en tentant d'attirer l'attention. Puis là, la dernière, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est le fait qu'elle utilise le bébé de sa chum pour faire semblant de l'allaiter.
Dans le fond, dans la vidéo, tu vois sa chum qui tient son bébé.
Oui. Qui est une fille de Québec, là, avec qui j'ai déjà travaillé, là, qui était une fille, ben je sais pas si elle l'est encore, mais une fille super, une collègue incroyable.
OK.
Ouais. Elle était aussi gentille que toi, elle était aussi à sa place
que
toi.
Non, c'est pas parce que tu fais de la porno que t'es pas fine dans la vie, mais aujourd'hui, elle a une autre carrière, je te l'annonce. Fait qu'elle allaitait son bébé, et là, elle passe à Hélène Boudreau, puis elle était son bébé, là, c'est ça l'affaire. Là. Elle l'a pas allaité, là. Il accote la bouche du bébé sur le top du sein pour faire comme si elle l'allaitait. Puis là, il y a un prêt de bébé, tu comprends? Donc là, les internets se sont enflammé parce que c'est indigne, ça n'a pas de bon sens, ça... Je décroche vite de ces affaires-là, pour être honnête. Là. Okay.
Moi, tu sais, j'ai entendu l'avis d'un avocat sur ce sujet-là. Bon, il n'y a pas d'histoire de pornographie juvénile.
Non,
y a
tu pas même pas le sein.
C'est juste que, moralement, ça n'a juste pas de bon sens. T'es rendu où dans la vie pauvre fille, pour faire une affaire comme ça. Prendre le bébé de quelqu'un, le mettre sur ton sein, dans l'espoir que ça l'excite les gars qui voient ça, puis qui est directement sur ton site pour voir ta poitrine, de quoi elle a l'air, tu sais.
Ouais.
Je trouve que c'est ignoble comme façon de faire. Complètement ignoble comme façon de faire. C'est correct, tu fais ta business, tout ça. Puis, tu sais, moi, je la trouve drôle, je la trouve divertissante. Puis, tu sais, un jour, j'espère l'avoir en entrevue pour y jaser, mais ce segment-là, je vais y en parler. T'es rendu où dans ta tête quand tu fais ça dans l'espoir qu'un dépravé sexuel aille voir sur OnlyFans de quoi il y a de l'air ton sein parce que t'as faim de nourrir un bébé?
Ouais, je sais pas. Puis là, écoute, de ce que moi j'ai vu, c'était pas directement pour envoyer le monde sur OnlyFans. Là. C'était juste
alors,
un trend
tu le fais?
De schnout. Ben, tu l'as dit d'entrée de jeu. Pour attirer l'attention, ça fait cliquer. Je veux dire, ça fait jaser au max en ce moment et je t'assure que tous ces clics-là, tous ces visionnements-là, elle, c'est l'argent qui rentre direct dans son compte. Là. Elle est bien heureuse en ce moment. Là. On en parle, tu comprends, puis c'est bien fait pour elle. Là.
OK, mais moralement, dans ta tête?
Moralement, bien, si elle l'avait, moi, là, la limite, là, honnêtement, comme je te dis, j'ai décroché vite parce que moi, ça me tape ses nerfs, ce genre d'affaires-là qui fait le tour du monde. Là. Si elle l'avait allaité, si elle avait rentré son téton dans la bouche du bébé, j'aurais trouvé ça, j'allais dire, épouvantable, dans la mesure où, là, il y a comme une question de... J'allais dire consentement, c'est même pas ça, mais c'est spécial. C'est très objectifié, c'est vraiment particulier.
Si c'est un enfant qui meurt de faim, puis il a besoin d'une autre mère pour l'allaiter, on est dedans 100% toi,
c'est ça, là, on se comprend.
Là, l'objectif, c'est d'attirer l'attention pour qu'il y ait plus de gars qui aillent voir son OnlyFans.
C'est ça, là, on parle de ses seins en silicone.
Puis on a utilisé un enfant.
Exact.
Moi, j'ai énormément de misère avec ça.
Je pense que là, ce qui est particulier là-dedans...
J'en juste pas. Quel genre de mère cette personne-là est pour embarquer dans ces patentes-là?
Ouais, c'est ça, là. C'est parce que la faute est partagée.
Autant besoin d'argent
là.
Que ça, que tu utilises ton propre enfant pour exciter les cochons?
Mais c'est ton ex-collègue, ça. C'est... Ben oui, c'est ça la réponse.
Mais tu sais, j'ai l'impression conscience. Que je te parle de deux personnes. C'est comme si on me parlait de toi 20 ans plus tard, Audrey, j'y croirais pas. Puis là, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, puis j'en revenais juste pas. T'sais.
Mais
cette fille-là de Québec, c'est une fille super,
mais
avec des super de belles valeurs. Mais depuis qu'elle est rendue dans ce monde-là...
Mais c'est une roue qui tourne, Yann, c'est pas compliqué, t'sais. Tu es présent sur les réseaux sociaux, tu fais de l'argent. Un moment donné, si t'évolues pas, puis tu step up pas dans ce que tu présentes, ça va stagner. Fait que t'en fais toujours... Elle s'est rentrée, Lynn Boudreau, des jeux dans le derrière, là. Tu comprends? À un moment donné, c'est parce que... Elle dépasse toujours sa propre limite pour faire jaser le plus possible, c'est ce qui crée des sous. Puis elle réussit, puis c'est pour ça que je te dis que j'ai de la misère à donner de l'attention à ça. Parce
elle
que
a toujours
je me
vendu
dis...
ses jujubes?
C'est ça.
L'histoire ne le dit pas.
L'histoire ne le dit
quelqu'un
pas.
Quelqu'un qui me dit, Yann, son but à elle, c'est de parler-en bien,
parler-en mal, mais parler-en. Totalement. C'est carrément ça.
Mais moi, ça, je comprends ça, puis je pourrais même embarquer là-dedans une fois de temps en temps, puis faire un peu de spectacle. Mais quand t'impliques un enfant, puis t'impliques de la sexualité, Chris, moralement, t'es où dans ta tête?
Ben,
va chez le médecin, ça va pas, prends un break.
Mais tu sais, cette fille-là n'est pas entourée, elle l'a dit plusieurs fois, puis si tu la reçois à un moment donné, puis écoute, on travaillera là-dessus, là, je vais essayer de pitcher, là, mais elle fait pas beaucoup de sorties, honnêtement. Là. Mais quand tu pognes des podcasts ou des extraits d'entrevues, ce qu'elle dit le plus, c'est à quel point elle est seule. Elle, là, toute sa famille l'a renié, là, tu comprends, là. Elle n'a pas d'amis, là. Et elle n'a pas de chum en ce moment. Et le chum qu'elle a eu, de ce que je comprends, il y a eu, tu comprends, de la fraude, puis des... Elle est seule. Puis à un moment donné, quand tu es seule, tu es dans ta petite chambre d'écho, là, on aime bien ça, ce terme-là, ce temps-ci, là. Tu es dans ta petite chambre d'écho, tu crées ton contenu, tu comprends, tu fais parler de toi, l'argent rentre. Elle, c'est tout ce qu'elle fait en ce moment. Puis en passant, je dis pas ça en l'excusant, là. C'est juste pour moi, Hélène Boudreau, c'est ça actuellement. Être seule, la personne à qui tu comprends parler puis raisonner, là. Fait qu'elle raisonne pas, elle pense pas, elle réfléchit pas. Elle prend des actions qui vont ramener du cash. C'est ça qu'a fait la fille, là. Fait que... C'est-tu moralement inacceptable?
Oui.
Ben...
À partir du moment où t'impliques des enfants...
On se comprend. Moi, plutôt, on ferait jamais ça. Mais Satchum, il donne son kid. T'sais, tu comprends ce que je veux dire dans le sens que là, t'as beau varger sur Hélène Boudreau, Satchum est aussi coupable.
Un jour, j'achèterai mon île, là, où j'établirai ma propre dictature. Là.
Ouais.
Puis si je vois ça sur mon île, c'est clair et net qu'il va y avoir un éducateur spécialisé qui va rentrer dans cette famille-là.
Ouais.
Est-ce que c'est clair?
OK, ben je t'amène ailleurs maintenant.
Oui!
Pourquoi tu penses qu'elle fait ça?
Ben je vais te le dire.
Mais non, mais il y a un auditoire pour ça, Yann. Tu sais, Hélène Boudreau, on a beau y taper sa tête, puis elle est moralement inacceptable, elle est dégueulasse,
ouais.
Sa chum de fille. Mais... T'as plein de gars qui capotent sur cette vidéo-là. Sont-tu mieux?
Mais je connais pas, eux.
Non, non, mais on s'en sert.
Mais moi, je sais qu'éthiquement et moralement, tu n'utilises pas un enfant
mais sont-tu mieux?
Dans un but sexuel.
On s'entend.
Et c'est ce qu'ils ont fait.
Mais on s'entend.
Sur mon île, où je serai dictateur un jour,
Il
n'y a pas une île à vendre. Là. Il y a l'île, ça s'appelle... Comment ça s'appelle, cette île-là? Roux, dans le fleuve Saint-Laurent. Elle a été vendue, il y a ça une couple d'années, une couple de millions. Je pourrais établir ma dictature-là.
Tu pourrais.
Mais c'est ça. Tu ne peux pas utiliser des enfants dans un but comme ça. Ça n'a juste pas
de
bon
sens. Non, on se comprend, mais le point, c'est juste que es-tu nounoune? A fait-tu n'importe quoi pour faire de l'argent? T'sais? Dans le fond, cette fille-là, on s'entend-tu que c'est une Christie de businesswoman? Là? Je veux dire, elle sait ce qu'elle fait. Il y a un public pour ça. Dans le sens que on est autant coupable comme public. Il y a une gang de crottés qui trippent là-dessus, Yann. Il est là le point. Elle fait ça parce que ça rapporte du cash. Il y a plein de monde qui, moralement, sont pas corrects. Il y a des gens qui fraudent. Il y a du monde qui sont en prison pour ça.
Mm-hmm.
Eux autres, on n'en parle pas.
Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas embarqué là-dedans ce vendredi.
C'est vrai que j'allais t'ostiner, hein?
10h31! Oh
Pourquoi
boy!
Pourquoi t'arrêtes tout le temps ça quand je suis pas d'accord avec toi? C'est épouvantable!
Parce que si, admettons, que je réplique à ça puis que je te pèse dessus, tu vas avoir de la peine.
Pourquoi? Non, je pense pas que j'aurais de la
puis
peine.
Puis là, si je fais trop mon... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu essaies d'expliquer... Mansplaining, là, ça va me revenir sur le dos.
Ça te reviendra pas sur le dos.
Fait qu'en 2025, je me watch.
Oh, Yannick, tu m'épuises. Envoie la tour.
Mais un jour, quand je serai dictateur, ouais, ces affaires-là n'arriveront pas sur mon île.
Sûrement.
Pearl Jam, Last Kiss sur Boulevard. Ah, on avait des discussions très sérieuses tantôt, puis ben, ça va continuer ce matin.
Les discussions sérieuses?
Ben oui, on est comme ça.
Il y en a de même. C'est un vendredi,
ouais.
Vous comprenez?
C'est un vendredi.
Exact.
Un vendredi.
Ça arrive, des fois, mais... faut parler de sujets sérieux.
Je sais pas si Mademoiselle V a constaté la même chose que moi, mais quand je suis sorti de ma voiture, je suis arrivé un peu tard ce matin parce que je devais aller rencontrer Satan, la comptable. Et
Le retour des impôts.
Oh là là!
Et je suis allé la voir, puis finalement, je suis parti de là. C'était à Beauport. Je suis parti de là, il devait être 9h48, mettons. Et je suis arrivé ici pile poil pour l'émission. Mais en sortant de la voiture jusqu'à la porte ici, je me suis dit, si j'avais la chance d'avoir deux breaks par jour, tu sais, les petits 15 minutes, là, je les passerais dehors. Là,
je ouais. dire,
puis ça m'a fait penser quand on faisait l'école nature avec le prof. Tu sais, le prof, tu rentrais au printemps, là, puis là, le prof disait, hey, on va-tu faire la classe dehors?
Hein?
Ça,
ah, c'était,
le fun. C'était un bonbon.
J'ai jamais eu ça.
Non?
Non, ouais. Nous autres, on nous laissait en dedans. Puis
Mais nous autres, à Cardinal-Leroy, là, c'était pas des enfants de chiennes. Non, c'était pas des enfants de chiennes. C'était des profs qui étaient humains. Puis quand il faisait beau, ben, ils invitaient tous les élèves dehors.
C'est une bonne idée.
Puis ils donnaient la matière dehors. C'était vraiment nice. Est-ce que c'était aussi...
Est-ce que vous étiez autant attentif?
Ouais. Est-ce qu'on était aussi attentif?
C'est sûr que non.
Je pense pas, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Puis, tu sais, je regarde aujourd'hui nos enfants qui ont beaucoup moins de jours d'école qu'on avait. Là. Ils sont rendus avec des jours de tempête, des périodes, des jours de pédago.
Aujourd'hui,
ça finit plus.
Aujourd'hui, mes enfants devaient avoir congé, puis ça leur aurait été rajouté parce pour une journée de tempête de
ben
cet
oui,
hiver.
Ben oui.
C'est chiant, tu sais, ils sortent dehors, fait full beau, faut que t'ailles à l'école parce qu'il y a une journée de tempête cet hiver.
Ah oui.
C'est plat.
Hey, Mademoiselle V, comment vas-tu?
Je vais bien, et vous?
Ça va bien, on s'est croisés hier à mon magasin Pinot.
Ouais,
ben
on s'est croisés, puis ce qui est drôle, c'est que j'étais en train de compléter ma petite surprise. J'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui.
Arrête de nous acheter des surprises.
Mais non, mais c'est pas... Tu vas comprendre. C'est parce que là, vous m'avez comme oublié. Hein?
On t'a oublié?
Ouais. Là, c'est ça qu'il faut que tu saches.
Comment ça?
J'ai été chicanée cette semaine.
Ouais.
Parce que Mademoiselle V m'avait dit, « Hey, moi, ça me tente vraiment de venir faire un tour dans l'open mic sans limite. » Et je l'ai complètement oublié.
Mais c'est normal, Audrey.
Fait que t'as flushé, Mademoiselle V, pour les stagiaires.
Tu fais ça sur moi.
Pour les stagiaires que tu reverras jamais.
Ah, que t'es malhonnête.
Elle m'a pas flushé, elle m'a juste oublié, OK? Sauf que je comprends pourquoi.
Ouais.
Tu sais, dans le fond, là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous remémorer les bons souvenirs qu'on a passés ensemble.
OK.
Hein? Je veux dire, on en a vécu des choses, ensemble.
Oh, mon Dieu Seigneur!
Je suis en train de leur présenter des photos de nos meilleurs moments qui sont disponibles sur mon Instagram.
Oh, my God! Attach!
Hein? Alors, on est allé sur la Lune.
Oui!
Hein?
Oui, on est allé sur la Lune. Attends, mais je veux voir les autres.
J'adore.
On est allé faire le balai casse-noisette.
Oui.
Hein? Ça, c'est assez évident. On est allé aussi sur le plateau de tournage de Harry Potter.
Eh oui, ça, je m'en souviens, c'était tellement le fun. Oui,
on était gelés raides. Ouais. C'était génial. Fait qu'au final, j'ai mis ça dans des beaux petits cadres. Je me suis dit, vous allez le mettre sur votre bureau. Fait que l'année prochaine, à pareille date, vous ne pourrez pas m'oublier.
Non, c'est sûr. Écoute, avec ça, il n'y a aucune chance.
En là, astronaute, on est vraiment hot.
On est hot. Là, c'est sûr que c'est creepy parce qu'il a fallu que j'aille sur votre page Instagram vraiment beaucoup pour trouver des faces. Là.
C'est ça, la montée de visite.
T'as pris ma face sur Instagram?
Exact. Exactement. J'ai été partout essayer de faire des faces bizarres avec vos corps. Puis vous allez pouvoir les voir. De toute façon, Audrey, tu vas le recevoir par message d'à peu près dans 10h45.
Tania nous demande, c'est quoi le nom de Mademoiselle V sur Instagram?
Ah, Mademoiselle V, M-L-L-E-V, sexologie.
On va les mettre également en story là, sur
elle va les recevoir tantôt,
de Boulevard, puis, c'est sûr.
Fait qu'Audrey, tu ne t'oublieras plus.
Non, c'est ça. Voilà. Fait que, mais tu sais, je me suis dit, la meilleure façon, c'est de leur rappeler qu'on est allé sur la Lune ensemble.
Sur la Lune, moi, j'étais vraiment...
J'étais surexcitée. Hein?
J'étais vraiment contente.
Ouais. Audrey est vraiment contente sur toutes les situations.
On dirait qu'elle s'apprête à chanter l'hymne national à Saint-Isidore.
Ben oh, oui, ouais. Ça me donne le goût d'y aller, honnêtement. Je vous écoutais en parler. Là, puis,
hey, t'as un beau body à la plage, Yann. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, il a brûlé.
C'était... La dernière fois qu'on est allé à la plage, puis maintenant, il y a comme un esti gros gars.
C'était
là.
Dans le bon temps. Puis je regarde la grandeur du gars, là, on dirait qu'on m'a coupé les mollets.
Ouais. Ouais, je vais vous mettre ça sur Instagram maintenant.
C'est, parfait, c'est parfait. Vraiment drôle.
Mademoiselle V, aujourd'hui, oui. On parle d'un sujet assez sérieux, très drôle, peu souvent mentionné sur les ondes de radio et même lors de chroniques à la télé. C'est rare qu'on parle de ça. On parle de la violence conjugale, mais au masculin.
Oui, ouais. La violence conjugale au masculin qui, malheureusement, connaît des bonds assez significatifs dans les dernières années. Pour vous donner une idée de ce que c'est l'ampleur de ce problème, c'est que une plainte sur quatre de violence conjugale concerne les hommes.
Donc 25%.
25% des plaintes présentées sont au sujet des hommes.
Est-ce qu'un homme violenté, mettons 100 hommes violentés, sur 100 hommes violentés, il y en a combien qui vont porter plainte, qui vont faire partie de tes statistiques?
Bien, c'est ça. Dans le fond, là-dessus, il y a 6% de ces gens-là qui ont été battus en plus, là. Battus par leur femme. Pas seulement de la violence psychologique, on va en reparler tout à l'heure, là. Mais tu vois, tu me parlais de plaintes, là. Chez les hommes, il y a seulement à peu près 9% qui vont porter plainte. Et malheureusement, 88% moins de chances de mener à une arrestation parce que c'est un homme.
Je suis curieux de te le demander, puis même aux auditeurs, 418-971-1021, textez-nous. Quand est-ce que ça s'appelle la violence psychologique? Quand est-ce que ça s'appelle la violence physique? Mais quoique violence physique, c'est assez évident, là, mais la violence psychologique, là, le fameux harcèlement là, féminin versus le masculin, parce que ça existe de deux bords, là. Mais quand est-ce qu'on peut dire « j'ai été victime d'harcèlement psychologique »?
On va appeler ça du contrôle coercitif. Okay? C'est quand tu as l'impression d'être contrôlé. Et ça revient dans toutes les histoires, tous les témoignages de violence conjugale, autant chez les hommes que chez les femmes. Dans le fond, c'est une stratégie, c'est comme un acte de contrôle qui est répété puis intentionnel, puis ça va s'installer très progressivement dans la relation. Tu vas obliger, manipuler, intimider, humilier. C'est comme une genre de cage invisible dans laquelle il y a une tension qui est perpétuelle. Fait que si on n'ose pas être nous-mêmes, si on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, si on se sent contrôlé de tous les sens, puis ça peut être aussi physique, comme tu le dis, mais ça peut être aussi psychologique, ça peut être aussi émotionnel, c'est de manipuler puis de mettre en doute tout ce que tu sais chez toi.
Est-ce qu'on a déjà tous été victimes d'harcèlement psychologique de la part de nos conjoints, conjointes?
Ça se peut. Il y a toujours une façon de qu'on peut manipuler l'autre puis lui faire du mal avec juste des mots.
Mais est-ce que moi, j'ai rencontré des filles poquées par les gars, là?
Oui.
Des gars qui étaient ultra jaloux, puis toi, si tu faisais un commentaire, genre « Ah ouais, t'as fait un beau sourire! » Puis là, elle a bloqué, exemple.
Ouais.
Parce que là, elle, là, ça y rappelait comme ses expériences passées où le gars pète une coche de jalousie. Tu sais, il y en a beaucoup de filles poquées comme ça. Fait que j'imagine qu'il y a des gars aussi qui sont poquées. Puis plus tu vieillis, Audrey, plus tu accumules ce genre de poque-là sur le corps. Puis si tu tombes célibataire à 50 ans, tabarouette, t'arrives poqué, puis il faut que tu t'arranges pour être intéressant pour l'autre personne, pour l'homme ou la femme. Mais
je pense que t'as pas le choix de
t'arrives
le dire.
T'arrives avec tes histoires. Oui, mais en même temps, ça tu racontes ça au départ.
Rapidement. Moi, il y a des affaires que j'ai racontées rapidement à mon chum. juste parce que j'avais l'impression que sinon, il allait remarquer des comportements ou des réflexes.
Ouais.
Puis que ça allait peut-être plus le perturber qu'autre chose, tu sais. Puis j'ai pas, en passant, je dis ça, j'ai pas vécu, moi, de violence conjugale physique ou rien, là.
Ouais.
Moi, j'ai vécu des petites chicanes dans un long couple auparavant où, à un moment donné, ça poussait un peu là, les commentaires qui m'étaient lancés. Puis tu pourrais appeler ça de la violence psychologique, là. Moi, j'ai juste le goût de te dire qu'il a joué sur ma confiance un méchant temps, là.
La manipulation.
Mais c'est ça, l'affaire, c'est que ça se croise. C'est juste que violence psychologique, ça sonne tellement gros que je pense que beaucoup de gens, peut-être aussi, Mademoiselle V, qui réduisent... Ce qu'ils ont vécu, ça se peut-tu?
Absolument, oui. Puis c'est aussi ce que le bourreau, celui qui va manipuler l'autre, veut que tu penses, tu sais, dans le fond. Fait que tu vas minimiser un peu le...
Mais tu penses que c'est de ta faute.
Tu penses un peu que c'est... Oui, tu penses absolument que c'est de ta faute. Puis ce qu'il faut aussi penser, c'est que ça vient par phase, hein. C'est des cycles, la violence conjugale. La personne ne va pas toujours être un trou de cul ou ouais. va pas toujours être une bitch
Surtout
à l'année
longue.
Surtout
la femme envers l'homme.
Bien... Moi, je pensais qu'il y avait quand même pas pire de différence, mais il n'y en a pas tant que
ah,
ça, au final. Sinon,
j'aurais pensé que la femme aurait été plus subtile dans sa violence conjugale envers un homme.
C'est le contraire.
Oh,
c'est,
ouais.
Les hommes sont deux fois plus à risque d'avoir une violence physique de violence conjugale. Donc, on parle de frapper, donner des coups de couteau, étrangler. Et on dirait que parce que l'homme est plus fort, il se donne le droit d'aller avec des mesures plus fortes pour prendre le contrôle sur la personne. Mmh. Et c'est beaucoup plus le cas chez les hommes que chez les femmes, qui souvent, c'est plus psychologique.
Il y a un texto que je trouve vraiment intéressant qui peut peut-être vous aider à mettre vos limites. Là. La personne dit « J'ai jamais vécu de violence conjugale, mais j'ai pour mon dire que la violence psychologique, c'est quand t'es manqué de respect, que t'es heurté dans tes valeurs, que t'es humilié vis-à-vis des opinions et ridiculisé Absolument. Face à tout ça. Peut-être que là, il y a une barrière justement qui est dépassée. »
Bien, c'est ça. T'sais, ici, si je vous fais un portrait global de c'est quoi, en fait, la violence conjugale, pour ceux qui ne sont pas certains d'en vivre ou qui ont des doutes, en fait, c'est vraiment une question de pouvoir et de contrôle. On va imposer des tâches, des activités, des règles, contrôler son quotidien, par exemple. La violence émotionnelle, on vient d'en parler, c'est créer de la souffrance, de la peur. La peur est un ingrédient extrêmement fort dans la violence conjugale. Créer la peur de perdre son enfant, créer la peur de perdre une vie confortable, par exemple. On va en parler. Il y a plein de raisons qui font qu'une victime reste avec la personne qui prend pas bien soin d'elle, justement. Sinon, violence psychologique remet en question la santé mentale de l'autre. T'es folle. T'es juste folle. Tu comprends? Mm-hmm. Ou t'es juste fou. Ça, c'est quelque chose qu'on va entendre souvent.
Est-ce que ces gens-là sont... Parce que la violence physique, il y a une évidence. Là, il y a un coup qui est porté, tout ça.
Mm-hmm.
La violence psychologique, bon, il peut y avoir comme 178 000 nuances.
C'est sournois.
Absolument, oui.
Mais quand est-ce que tu peux déterminer ce qu'il est de la violence psychologique versus quelqu'un qui essaie juste de te recadrer, là, parce que visiblement, ce que tu es en train de faire là, mm-hmm. ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, tu sais, j'ai un de mes chums qui me racontait, puis il est encore avec cette fille-là aujourd'hui, puis il a laissé du temps, mais quand je parlais de fille poquée, là, elle vérifiait constamment sur son ordinateur de son nouveau chum, qu'est-ce qu'il y avait sur son ordinateur, vérifiait constamment ses messages Facebook, ses messages Instagram, elle regardait les likes, les cœurs, était tout le temps en train de faire des recherches, puis elle mettait tout le temps en doute sur tout. Même des fois, il y avait des épisodes où il jouait au hockey, puis avant d'embarquer, tu regardais par la fenêtre, puis il voyait le char de sa blonde passer.
Oui.
Hey, c'est du monde poqué pour faire ça, là.
Ben,
mais tu sais, c'est du monde poqué, mais en même temps, ça en est, ça, de la violence psychologique. Là. Ces gens-là essayent de fouiller dans ta vie constamment, puis te remettre sur le nez Audrey, exemple, qui a liké ta photo en 1983.
Oui, ou celle qui va sur ton Instagram pour trouver plein de photos de ta face.
Oui. Au moins, tu m'as emmené dans l'espace.
Oui, au moins, on a voyagé un peu, on a fait des
c'était
affaires.
Pas cher. Hein? Mais oui, en fait, puis tu sais, ce que tu dis, c'est important, c'est que quand est-ce que ça devient trop... Quand est-ce que... C'est quoi la différence, mettons, entre une dispute puis la violence conjugale? Tu sais, je parle de dispute, là, mais ça peut être aussi un manque de respect passager envers ton conjoint ou... Tu sais, les petites affaires qu'on fait de pas correct des fois qui demandent un pardon, mais qui ne vont pas nécessairement être de la violence conjugale. Bon, si on prend un conflit, par exemple, ou une dispute, c'est une argumentation qui peut avoir un geste ou une parole agressive, mais ce n'est pas le but de contrôler ou de dominer, mais plutôt de convaincre l'autre, tu comprends? Et c'est surtout, je dirais, tu me demandes quand est-ce que ça devient, là, c'est la peur. Quand tu te sens plus libre d'exprimer ou d'agir librement, c'est qu'il y a un contrôle coercitif. Mmh. Et là, à ce moment-là, on parle de violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique, ça n'a aucune importance.
C'est un très bon indice, sauf que quand tu appelles la police pour dire que tu es victime d'harcèlement psychologique de la part de ta conjointe, le policier peut faire quoi? Absolument rien.
Mais normalement, il faut des preuves, mettons, des messages, textes, des audios, vocales. T'sais, maintenant, on a la technologie.
Mais le harcèlement psychologique, le policier, les deux patrouilleurs qui se présentent, là, eux autres,
c'est considéré comme harcèlement.
Ils vont mettre en état d'arrestation ta conjointe ou ton ex-blonde.
Des textos, des appels, tu peux aussi demander une interdiction de contact avec quelqu'un. Donc, de prouver que cette personne-là te harcèle et te veut du mal. Donc, à ce moment-là, elle ne peut plus communiquer avec toi. Mais c'est sûr que là, si vous êtes en situation de couple, c'est vraiment pas évident parce que souvent, ça ne veut pas dire que ça va mettre fin au couple non plus.
Des fois, c'est l'inverse aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit sur le Twitch, la guerre du silence, c'est vraiment terrible. Il y en a qui pratiquent la violence psychologique, la manipulation par la guerre du silence.
Ah, puis ça, je me suis déjà fait reprocher ça.
Ah ouais?
En me disant que je faisais de l'harcèlement psychologique ou de la guerre du silence, là, parce que je devais sortir de la maison, parce qu'il y avait un froid. Fait que j'allais prendre une marche.
Ouais.
Il y a des filles qui détestent ça, puis moi, dans ma tête, j'aime mieux réfléchir. Puis si j'ai raison, j'ai raison. Mais si j'ai tort, je vais venir m'excuser par la suite. Mais cette heure-là que je vais avoir passée seule à me promener...
Ça va avoir fait en sorte que
si je réagis trop à froid, je peux être méchant dans mes propos. Alors que si je suis calme et posé, puis je vais avoir réfléchi pendant 60 minutes, ben là, je vais avoir des propos qui se tiennent un peu plus, tu sais, puis peut-être un peu plus posés que quand les émotions embarquent, là.
C'est différent aussi de prendre du temps pour toi pour digérer tout ce qui vient de se passer et être agressif, passif.
Parce
au bout, là,
y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui sont des spécialistes là, des relations de couple, puis ils vont dire « Si votre homme fait ça, c'est du harcèlement psychologique. » Fait que là, les filles embarquent là-dedans. « Hey, j'ai écouté un podcast d'une fille. » Ouais, mais t'as peu, c'est-tu professionnel? As-tu étudié là-dedans?
Gaëlle, il y a quelqu'un qui... La personne qui a parlé justement de la guerre du silence dit « Il y a une nuance. Se faire bouder pendant une semaine, ça, c'est quelque chose. Toi, ce que tu fais, Yann, c'est décompresser. »
Exact.
C'est pas ignorer l'autre pendant des jours.
Parfaitement d'accord avec cette personne.
Il y a une grosse nuance. Ouais. Je veux lire aussi un texto d'auditeur qui est entré parce qu'en passant, on parle de violence conjugale au masculin, ce qu'on a l'impression qui est plus rare, mais tu nous apprends qu'en fait, c'est peut-être même l'inverse. Peut-être que les gars en parlent juste moins.
Ils n'en parlent pas, effectivement.
Il y a quelqu'un qui nous dit « Pour avoir été dans une relation avec une femme qui me faisait subir de la violence psychologique, je m'en suis rendu compte seulement au moment où j'étais complètement isolée. Je ne voyais plus mon monde, juste elle, juste son monde à elle, sa vision à elle. Bon, vous comprenez. »
Elle l'avait isolée. Exactement. Cette personne-là faisait de l'anxiété.
Bien, ça fait l'isolement, là, ça fait partie des gestes reliés à la violence conjugale qui sont assez, qui parlent très fort. Tu sais, quand ton entourage vient te voir puis te dit, garde, on te voit plus, là. Tu viens plus, ça nous fait peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le contrôle sur ton environnement social, c'est d'isoler géographiquement la personne, mais en plus de restreindre son accès à ses proches, aux réseaux sociaux. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la violence économique. Hein? Je sais pas si vous y avez pensé, mais c'est la majorité des gens qui sont coincés par ça, qui sont pas capables de s'en sortir et qui veulent pas quitter une relation parce qu'ils sont totalement dépendants financièrement de l'autre.
Mais ça, c'est-tu la faute de l'autre?
Non, ça peut être la faute des deux, en fait, mais c'est certain qu'un agresseur ou une personne qui agresse l'autre, un partenaire qui fait de la violence conjugale, va avoir tendance à maintenir ou vouloir ça. Parce que dans le fond, c'est un lien qui l'attache à toi. Fait que ça peut être de forcer ça, de dire, regarde, tu vas arrêter de travailler, là. Arrête de travailler, t'as pas besoin d'un deuxième salaire, on va arriver. Puis ben justement, effectivement, là, après quelques années, ça va moins bien. Puis là, ben toi, tu te retrouves avec aucun capital financier ou aucune sécurité financière. Fait que c'est pas évident, c'est une raison pour laquelle beaucoup, beaucoup de gens vont rester. Et c'est une grosse facette du contrôle de la violence conjugale.
Ah oui. Est-ce que dans les dernières années, il y a une montée, justement, de cette violence conjugale-là au masculin?
Ah, c'est l'enfer, oui. Chez les hommes, de 2005 à 2023, OK, on a une augmentation de 182%.
Tabarnouche.
Des plaintes reliées à la violence conjugale.
Ça, est-ce que c'est les filles qui sont un peu plus weird ou c'est vraiment les gars qui maintenant sont ouverts à parler de cette violence-là?
Il y a un peu des deux.
Puis en passant, si vous êtes victime de violence conjugale, parlez-en et dénoncez-le parce qu'à un moment donné, ça peut tourner contre vous autres.
Absolument. Dites-le, puis ayez pas peur. On en reparlera. J'ai un petit quiz, des petits conseils à vous donner si vous avez envie d'en sortir. Oui. Mais malheureusement, oui, pour les hommes, il y a une augmentation énorme. Et je disais 182%, là, mais c'est contre 40% pour les femmes. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous, mais pas nécessairement une bonne nouvelle pour eux. Et ça s'explique, entre autres, en fait, c'est beaucoup des hommes de 18-25 ans Et on explique ça un peu du fait que 75 % de ces gens-là sont hétérosexuels, donc en couple avec une jeune femme de 18 à 25 ans, qui... pour ce groupe d'âge-là, chez les femmes, un regain d'anxiété. Hein? La société ne va pas bien, c'est difficile pour ces jeunes femmes-là. Et ça n'excuse en rien le geste, mais ça fait partie un petit peu de leur façon de passer leur agression, si on veut, passer leur stress. C'est en l'imposant à l'autre.
Ils vont se défouler sur
l'autre. Exactement.
Ouais. J'ai des couples de lesbiennes dans mon entourage, Audrey, là, puis c'est hallucinant à quel point elles me parlent de la violence conjugale.
25 % sont des couples homosexuels, oui.
Ouais.
Les
filles se tapent dessus puis se font de la violence psychologique. Je sais pas si c'est la même chose pour les gars. Là. J'ai pas tant d'amis homosexuels là, qui sont en couple que je vois régulièrement. Mais deux couples de lesbiennes qui m'ont rapporté ça, je trouvais ça hallucinant.
Ben, pense-y, si tu ouvres la télévision puis tu regardes un film, quand tu vois un homme frapper une femme, il va être arrêté puis on n'en parle pas. C'est quelque chose qu'on va cacher. Mais de voir une femme, ça a créé une claque sur la gueule d'un homme
badass.
Parce qu'elle est badass.
Ouais.
Et oh, elle vient de prendre sa place. Tu comprends? Alors que c'est pas forcément bien. Ça l'est jamais, en fait. Mais c'est banalisé dans le sens où c'est quelque chose qu'on va voir souvent, la petite claque sur la gueule. Là,
y a-tu des gars plus à risque que d'autres de subir de la violence conjugale? C'est une drôle de question parce qu'au final, tu le vois jamais vraiment venir. Là, mais...
Oui, bien, en fait, ce que je disais tantôt, les hommes de 18-25 ans qui sont généralement plus avec des femmes du même âge qu'eux. Ensuite, tu as si toi-même étais victime dans ton enfance, que tu as vu ton père ou ta mère se faire agresser par l'un ou l'autre, c'est déjà énorme ce que ça prend comme place. Mm. Donc, tu es déjà plus à risque parce que c'est comme ça que tu l'as vu. C'est comme ça pour toi le rapport de force, d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est à ça que ça ressemble. Donc, tu vas avoir tendance à plus le recréer. Sinon, ben il y a des hommes en situation de handicap hein, qui sont malheureusement souvent en position inférieure puis qui ne peuvent pas nécessairement répliquer ou qui ne sont pas aussi bien entourés. Le statut d'immigration précaire semble jouer un rôle beaucoup là-dessus. Les hommes en perte d'autonomie puis les communautés autochtones chez les hommes aussi. Donc, c'est les prédispositions, si on veut, là. Mais ce qui revient le plus dans chacun des cas de violence conjugale, c'est ce que tu as vécu quand tu étais jeune.
Ah ouais,
90% des gens qui perpétuent la violence conjugale dans leur propre couple l'ont déjà vécu quand ils étaient jeunes.
J'aimerais ça que tu m'expliques la violence physique indirecte, puis j'aimerais ça que tu m'expliques la violence physique par proxy.
Ouais, violence physique indirecte, là, c'est quand tu vas, par exemple, cracher, mordre, frapper, étrangler ou tuer l'autre.
Ça c'est direct.
Ouais. Quand tu sais que tu vas manger une claque. Là. Violence physique indirecte, on parle de comme bloquer un accès à la sortie, frapper un mur, lancer un objet, briser un objet. C'est quelque chose qui fait peur, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va te donner du mal ou des blessures physiques, si on veut. La violence par proxy, ça va être quand quelqu'un va dire « Hey, si tu fais ça, je vais tuer tes enfants ou je vais m'attaquer à tes proches. »
Je vais se venger sur tes enfants, sur les animaux de
compagnie
aussi.
Ouais, aussi. T'sais, si jamais tu fais quelque chose, ben moi, je vais tuer le chien ou whatever. Là. Encore là, c'est par cycle. Hein? C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est-à-dire que la personne, au début, est gentille, attentionnée, aimante. Puis c'est quelque chose qui vient vraiment par phase et vont s'excuser. Elles vont offrir des plates excuses, puis veut pas la personne, au début, va finir par le croire, puis réembarquer dans cette roue qui tourne là, pour au final se rendre compte, après, des fois, ça peut prendre jusqu'à 6 à 8 tentatives avant qu'une personne quitte son conjoint.
Ben oui, mais ça m'épate pas pantoute. Tu sais, t'excuses ces gestes-là, là. Je veux dire, tu te demandes ce que t'as fait pour que ça mène là. Tu te dis que, oh mon Dieu, que c'est un mauvais moment. Et...
Tu doutes beaucoup de toi-même aussi.
Mais
hein,
oui.
C'est voulu parce que t'es manipulé. Donc, ta confiance et ton estime personnelle est on the ground. Fait qu'il n'y a plus de raison pour toi.
Puis quand ton partenaire, je veux dire, s'excuse puis pleure, puis c'est sûr qu'il y a une empathie qui embarque, j'imagine, les premières fois parce que tu te dis, OK, tu sais, c'est peut-être juste un bout de que cette personne le passe.
Ou... Puis quand t'es un gars, parce qu'on parle de violence conjugale au masculin, là, quand t'es un gars, c'est difficile d'admettre que t'es victime de violence psychologique là, ou de violence physique. De un, si tu dis ça à tes chums sont tes chums, là, puis des fois, ben ils sont un peu caves.
Il manque un petit peu de délicatesse.
Défends-toi! T'es plus gros qu'elle! Voyons,
ouais,
qu'elle
sac ton... forcément violent.
Sac ton camp de là, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas comment ça se passe du côté des filles, mais je sais que les gars, on n'a pas tendance à montrer cette facette-là de notre personnalité, là, qu'on peut être... un peu fessé par rapport à ce qui se passe dans notre vie intime avec notre conjoint.
Puis en plus, là-dedans, Yann, c'est qu'ils vont subir aussi de la maltraitance, malheureusement, des gens qui vont traiter ces dossiers-là. C'est plate à dire, là, mais on appelle ça une violence institutionnelle. Là. Ces hommes-là qui vont chercher de l'aide, des fois, vont être ridiculisés par les policiers, par des enquêteurs, par des psychologues puis des médecins qui ne sont pas outillés pour gérer le traumatisme au masculin, qui est totalement différent d'un traumatisme au féminin.
Tu sais, j'ai en tête un gars qui faisait de la télé, je pense qu'on l'appelait Monsieur Showbiz, tu peux-tu vérifier, Éric Rémy, qui était un animateur de télé, ça n'a jamais été Jean-Pierre Coallier, mais c'est un gars qui faisait de la télé une fois de temps en temps, puis lui avait avoué avoir eu de la violence conjugale, puis ça n'avait pas super bien tourné lui. Là. Les gens l'avaient ridiculisé, puis c'est un gars qui était... c'était pas un... T'sais, quand tu le regardais à la télé, tu voyais que c'était pas un mâle alpha. Il s'exprimait super bien. Il était très délicat. Il avait des grandes connaissances. Et... Ouais. Puis après ça, il a avoué qu'il avait été victime de violences conjugales. Puis ça, on dirait que ça s'est retourné contre lui. Les gens ont ri de lui, malheureusement.
Malheureusement, avant l'apparition du mouvement MeToo, c'était pas mal vu. Même si ça n'a pas touché particulièrement les hommes, là, on dirait que ça leur a comme donné une porte d'entrée, si on veut, à en parler un peu plus.
C'était Saudré, Éric Rémy?
Oui, c'était ça. C'était carrément ça, oui.
Monsieur Showbiz.
Ouais.
Parce que en plus, quand tu vas aller pour te déclarer victime de violence conjugale, souvent, tu peux passer pour l'agresseur quand tu es un homme. Donc, des fois, ils vont pouvoir revirer ça à l'envers. Eux, ils n'étaient pas là. Fait que la peur d'être considéré comme agresseur va faire que tu ne vas peut-être pas y aller.
Ouais.
Puis en plus, ajoute à ça aussi que, mettons, tu es un homme qui est battu ou qui est violenté psychologiquement. Si tu as des enfants, il n'y a pas très peu de centres qui vont t'accueillir avec tes enfants si tu es un homme. Fait qu'il faut que tu laisses tes enfants derrière toi. Tu comprends-tu? Puis des fois, la personne n'est pas nécessairement non plus parfaite avec les enfants. Si elle a pris mal soin de toi, peut-être qu'elle va prendre soin mal des enfants aussi. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, est très difficile pour l'homme à débuter, mais aussi à maintenir. T'sais, il faut qu'il passe par plein de personnes qui vont le juger, veut pas. On s'outille de plus en plus. Les services sociaux s'outillent de plus en plus pour répondre à cette crise-là. Mais ça n'empêche que les hommes sont victimes, oui, de jugements, beaucoup plus.
Martin nous a écrit tantôt, il dit « Salut, moi j'étais dans une relation avec une femme qui me faisait subir la violence psychologique. Je me suis rendu compte parce que j'étais complètement isolé. Je voyais plus mon monde, seulement son monde à elle. » Puis, il nous a écouté parler, puis là, il vient de réécrire. Donc, il dit « Et à l'époque, pour moi, c'était très stigmatisé. Après deux ans de thérapie, ma thérapeute m'a fait des excuses parce qu'au début, elle ne me croyait pas. Pensait que c'était moi qui étais violent avec ma conjointe et que je tentais de mettre la faute sur elle. »
Ouais.
Mais juste dire, pour ce qui est de la violence conjugale, là, physique et psychologique, là, mais chose sûre pour la violence physique, les policiers de la ville de Québec sont formés maintenant depuis des années et des années pour accueillir les victimes de violences conjugales. Ça n'a rien à voir avec les policiers des années 80 et 90. Ils ont des cours maintenant, puis ils démontrent une certaine empathie, puis ils vous challengeront pas à savoir si vous dites la vérité. Es-tu consciente de l'impact que tu peux avoir dans la vie de cette femme-là ou de cet homme-là quand tu dis qu'il t'a battu, patati patata? Ils sont maintenant formés, nos policiers, à la ville de Québec, ça, c'est sûr et certain.
Ils travaillent avec des gens dans les services sociaux, puis c'est important, mais tu sais, des fois aussi, c'est pas méchant de leur part, mais des fois, ils peuvent manquer un peu de délicatesse dans la manière de l'exprimer parce qu'ils ne travaillent pas avec des cas de violence conjugale au quotidien. Puis c'est normal, puis ça peut faire peur à la victime, puis elle peut voir ça comme une certaine violence institutionnelle, mais on fait ce qu'on peut. On est en train d'améliorer les services pour ces hommes-là parce que c'est égal, hein, homme ou femme, ça ne change rien, ça fait mal des deux bords. Les conséquences sont les mêmes d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est
Je veux lire un autre texto qui est entré. Oui. C'est sûr que ça concerne plus la Mauricie, puis on parlera des ressources ici à Québec, là, mais il y a Camille qui nous dit qu'en Mauricie, centre du Québec, il y a un organisme pour les hommes victimes de violences qui s'appelle Emphase. Elle dit que les services sont complètement géniaux. Elle a référé plusieurs hommes vers leurs services, puis sérieux, ça aide beaucoup. J'ai le goût de dire à Québec, on les a déjà reçus, mais Autonomie, Oui. Ça fait partie des organismes là, qui concernent l'homme en général pour tout problème, j'ai envie de dire, là, mais dont la violence conjugale. Ça peut être une autre ressource. Puis le pire, c'est que tu écris sur Google « violence conjugale », tu as le site SOS violence conjugale.
Exactement.
Qui est plein de ressources également. Là.
Oui, l'aide aux conjoints aussi, SOS aide aux conjoints. Il y a la page gouvernementale du gouvernement du Québec qui donne toutes les ressources par quartier ou par endroit où vous vivez pour aller chercher de l'aide-là. Puis il y a aussi des quiz à prendre, savoir si vous êtes victime de violence conjugale, puis vous avez besoin d'avoir la réponse, puis de faire les démarches. Il y a des quiz que vous pouvez prendre en ligne.
T'as-tu des exemples de questions? C'est quoi qui pose dans les...
Oui. En fait, comment savoir si on est victime de violence conjugale? J'en ai noté quelques-unes. Donc, la personne va toujours s'excuser après et tenter de se faire pardonner de manière assez exagérée, des fleurs, du chocolat. Tu sais, il t'a passé dessus avec le char la veille, mais le lendemain, il signe ton plat en chantant Kumbaya. Là,
mais j'ai entendu dire souvent que quand c'était visé sur l'homme, puis je sais pas si Anne, t'as déjà entendu ça, là, mais que c'était des excuses sexuelles, tu sais, que la femme allait s'adonner à des...
voilà.
Je vais te faire plaisir, mon amour, je suis tellement désolée. T'sais.
Exactement. Ensuite, sinon, ben, on en a parlé tantôt, là, la tension puis le non-verbal, tu sais, celle qui disait là, il va bouder. Bon, les soupirs, l'expression faciale, les gestes brusques. La personne est tout le temps de mauvaise humeur. La personne qui porte les gestes, là, qui crée la violence conjugale, elle est souvent de mauvaise humeur, puis on ne sait pas pourquoi. Elle est irritable la majorité du temps. Sinon, un autre, tu sais quand ça va aller mal. T'sais, quand tu le sais là, qu'il y a quelque chose qui se brasse, là, c'est un signe. Tu mets énormément d'énergie à faire diminuer la tension dans ton couple. Tu es toujours en train de vouloir marcher sur des œufs. Puis tout ça. Ensuite, c'est jamais sa faute à lui. Jamais. Toujours la tienne ou celle des autres. Et le dernier, je dirais, la peur. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Quand vous avez peur puis que vous sentez que votre conjoint il est 5 heures, il est sur le bord de rentrer, puis que là, vous commencez à stresser, la patate vous va, c'est signe qu'il faut faire quelque chose.
Incroyable! Incroyable! Puis là, je sais qu'en parlant de ça, Mademoiselle V, avec toi, concernant la violence conjugale, physique et psychologique pour les hommes, ça met des flashs dans la tête des gens sur leur ancienne relation. Puis il y a plein d'auditeurs qui nous écrivent, justement, qui se rendent compte que peut-être qu'ils ne le savaient pas, mais ils étaient victimes de violences psychologiques de la part de leur conjointe. Mais c'est ça. Allez demander de l'aide si vous êtes capable, bien entendu, de vous faire aider, parce que des fois, c'est un peu plus complexe. Mais dans l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre qui est un peu plus qui a un peu plus de bon sens que la dernière ou que le dernier que vous avez rencontré, faut que tu règles ces bobos-là, sans quoi arriver dans une autre relation où tu es vraiment poqué. C'est sûr que tu vas peut-être sentir le sentiment de rejet par la suite. Parce
pas refaire les mêmes erreurs une autre fois.
Quand le nouveau ou la nouvelle qui rentre dans ta vie, tu peux pas y étaler tout le négatif que tu as eu dans ta dernière relation. Parce que
tu changes le tapis.
La personne va se sauver va se sauver à la course. C'est bien normal. Tu es au restaurant dans les premières dates. Ce que tu veux, c'est de paraître sous ton meilleur jour. Puis après ça, ben, apprendre à connaître l'autre personne. Puis essayer de faire un mélange de positif puis d'un peu de négatif concernant tes relations passées. Mais si tu racontes tout ça au départ, puis t'es encore poqué, ça fonctionnera jamais avec ton nouveau conjoint, ta nouvelle conjointe.
Non, je pense que c'est important, si vous avez été victime de violence conjugale ou que vous quittez une relation qui est difficile, de fermer la boucle, d'aller voir quelqu'un pour vous aider à cheminer, prendre un peu de temps pour vous seul, réapprendre à vous faire respect à vous-même, parce que si vous avez laissé ça aller, c'est que vous n'avez pas de respect pour vous autant que vous le devriez. Quand on s'en rend compte, des fois, on tolère ça pendant des années, mais c'est pas une bonne chose. Donc, c'est d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Puis surtout, le conseil que j'ai envie de vous donner en terminant, c'est votre entourage, vos proches, que vous soyez en dispute ou pas, que vous ayez des conflits, vont toujours être là pour vous autres. Fait que trouvez une ou deux personnes de confiance dans votre entourage, allez voir, puis dites-lui, regarde, je vis des choses difficiles, est-ce que tu peux m'aider? Puis vous allez toujours recevoir de l'aide, d'une certaine façon. Sinon, ben, allez vers les services sociaux, mais n'attendez pas. C'est créer des traumatismes supplémentaires, puis rester avec un choc post-traumatique. Personne ne veut ça par la suite.
Exact. Mademoiselle V, pour les gens qui veulent te rencontrer pour des consultations?
Oui, www.mademoiselleV.com. Mademoiselle V, on l'écrit MLLEV. www.mademoiselleV.com.
Mademoiselle V, on se dit...
J'ai été sur la Lune, n'oubliez pas.
Oui, on se dit à la semaine prochaine.
Oui, avec plaisir.
Merci d'avoir été avec nous autres. 418-971-1021, 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous avez des choses à nous dire, merci d'être nos yeux, nos oreilles. C'est par texto.
On y va. Le 28 avril avec Marceau et Audrey Pinchot.
Ah, c'est une émission Le Fun avec Mademoiselle V, Le Fun. En tout cas, pertinente du moins, les auditeurs semblent l'avoir apprécié. Merci beaucoup pour ces sujets. C'est le fun de vous entendre parler des boys. De plus en plus, le open mic, on va essayer de se trouver des sujets qui touchent, oui, la femme, là, mais aussi l'homme. En fait, les deux. Là.
Ben oui, on a une crowd qui est tellement 50-50, puis je pense qu'on parle pas assez des gars. Quand on parle...
Je suis là, les gars, je vous abandonnerai jamais.
Franchement. Quand on parle de ces sujets-là, santé mentale, je pense qu'on s'en vient bon, là, mais violence conjugale, on a toujours en tête, puis les statistiques le montrent de base dans ce qui, dans ce qui va en justice, du moins, là, que c'est les femmes qui en vivent plus. Mais tu vois, les stats de ce matin ont complètement changé ma perception. Puis j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça triste aussi de vous lire, de réaliser qu'on avait des boys qui nous écoutent, qui sont passés par là.
Ouais, la violence psychologique, des fois, on dit « Oh, c'est un gars, il est fait fort », mais ça se peut que ça te reste dans la tête longtemps.
Ouais. Puis en passant, je pense que ça se dit. Je suis peut-être dans le champ, mais je pense que ça se dit à ta blonde. Si tu trouves qu'elle pousse loin de dire « Hey, là, je trouve que ça commence à violer, oui. Ça commence à frôler un peu la violence psychologique. Je suis pas bien. »
Mon conseil, sacrez votre camp.
Non, mais de le nommer. Je pense que des fois, il y a des gens qui ont des comportements toxiques dus à d'anciennes relations, Yann. Puis je pense que c'est des choses qui peuvent changer.
Ouais, tu sais, si t'as toujours été traité d'une camp, façon... C'est que si ça n'arrête pas, il faut que tu sacres ton camp, parce que sinon, ça va se revirer contre toi. Hey, salut à Francis qui nous écrit. Salut, je sais pas trop... s'il y a des gars qui savent pas trop chercher des ressources, là, il y a un excellent groupe Facebook.
Ouais.
Exclusivement... de monsieur, des pères. Si vous êtes beau-père aussi, ça fonctionne à ce qu'on me dit. C'est le groupe, j'y étais voir, j'ai fait une demande d'admission, ça s'appelle Les Petits Pères. Les Petits Pères au pluriel. Donc, P-T-I-T-S, donc Petits Pères, P-E-R-E-S. Puis ça s'appelle le groupe. Il y a 2600 personnes qui sont là. C'est tous des gars, puis ça jase.
Des gars qui s'aident.
Ça se donne des trucs.
T'es cœur, hein? On dirait que ça, quand j'entends parler de ça, là, je trouve ça hot. Ça vient amener un petit peu de soleil sur tout ce qu'on lit dans les nouvelles, tout ce qui est négatif par rapport aux boys, même aux femmes. Là. De voir qu'il y a du monde qui s'aide, qui se tiennent, je trouve ça vraiment cool. Parce que tu sais, il y a des groupes de nouvelles mamans là, sur Facebook là, pour te donner des trucs là, avec l'allaitement et compagnie. Là. Je trouve ça hot qu'il y ait un groupe de pères.
Exact. Hey, demain, on t'écoute chanter à Saint-Isidore parce arrête qu'il y a de plus de... Là, j'ai eu des nouvelles là, sur le nombre de personnes qui devraient y avoir à l'intérieur de l'amphithéâtre de Saint-Isidore.
Ouais.
Je rappelle que c'est un petit aréna de région. Là.
Oui.
Ça va être full house. On parle entre 500 et 600 personnes. Il y a la bière pas chère.
Oui.
Il y a un casse-croûte qui est là. Ils vont être dans le jus comme pas possible. C'est la revanche. C'est la gang de boulevard. Nous autres qui allons tenter de ravir la victoire au Iceman de Saint-Isidore. Puis,
vous allez perdre, je suis sûr.
Ben là, on a Max Larouche. On a tout fait pour que Max soit pas de la partie.
Chnout.
Puis finalement, il va être là. Donc,
vous avez une béquille en partant.
C'est ça. Le match commence demain à 20h à Saint-Isidore. C'est l'aréna de Saint-Isidore, là, si vous voulez venir nous voir. C'est 5$. Puis le 5$ va directement pour conserver l'aréna à Saint-Isidore. Là.
C'est hot, je trouve.
Ah, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Puis je charge ça à tout le monde en passant. On charge ça à tout le monde. Le propriétaire de la station, M. Leclerc en personne, me dit « Hey, il va y aller vous voir, moi. Il voit un billet pour moi. » Je n'allais en toi. Tu vas payer 5$.
Tout le monde paye, même nous autres.
Tout le monde paye 5$.
C'est pour la cause de l'aréna de Saint-Isidore.
Exact. Puis c'est la gang de Saint-Isidore qui organise ça. Puis,
venez nous
voir. J'espère juste que dans le 5 à 7, ils vont être plus souples que la dernière fois. Oh. Ce qui fait en sorte que quand on va embarquer sur la glace à 20h, ils vont être un peu moins forts.
Sous, ils ont été sur la coche, fait qu'imagine.
OK. D'autres, on s'en va en musique. Toi, je te dis à tantôt, à 14h avec Denis.
Oui, on se retrouve lundi, cher ami.
Blink 182, What's My Age Again? Sur Boulevard à l'instant.